Radio.
Je suis Younes Algarty, Managing Director d'Avisio Mentoring, la solution d'accompagnement personnalisée par le meilleur manager de la tech. Dans Lieutenant, j'ai décidé de mettre en lumière les premiers employés des grosses startups et scale-up qui cartonnent aujourd'hui et jouent un rôle clé dans l'ombre des fondateurs. Tous les 15 jours, je leur donne le micro pour vous offrir leur version opérationnelle et concrète de l'histoire. Ils vont nous dire quels outils, méthodes et erreurs ils rencontrent sur le chemin du succès. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Bonne écoute! Salut Maud!
Salut Younes!
J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Maud Sarfati, qui est responsable commercial chez Epsor et qui va nous raconter comment, en arrivant au tout début, elle a structuré l'équipe commerciale et participé grandement à la croissance d'Epsor.
Merci de me recevoir.
Maud, est-ce que tu peux commencer par nous dire ce que c'est Epsor?
Alors Epsor, on est une fintech qui existe depuis 4 ans. On fait de l'épargne salariale. Donc en fait, on propose aux entreprises des solutions d'épargne pour leurs salariés. Nos concurrents, c'est des grandes banques traditionnelles et on vient proposer tout ce que tu peux attendre d'une fintech, une meilleure expérience, transparence, etc. Donc on est aujourd'hui 80 salariés depuis 4 ans, 3 levées de fonds, belle croissance, encore plein de belles perspectives pour l'année à venir.
Canon. Alors, on va rentrer dans le détail de tout ça et de toute cette belle croissance. Pour commencer, juste, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur toi, Maud, et te présenter, s'il te plaît?
Ouais, alors moi, j'ai 29 ans aujourd'hui. Je suis diplômée d'école de commerce, j'ai fait l'ESSEC, avec une forte spécialisation sur l'entrepreneuriat et des expériences en start-up. En sortant de l'ESSEC, j'ai eu une première expérience en tant que sales dans une agence digitale qui s'appelait Geronimo. Donc, je vendais des applications mobiles, vraiment rien à voir avec le sujet de l'épargne, de la finance, etc. Et puis, j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai rencontré les deux fondateurs d'Epsor qui étaient vraiment au tout début de l'aventure et qui m'ont proposé de les rejoindre à ce moment-là. Donc, voilà, je suis arrivée vraiment au tout début de l'aventure Epsor.
Canon. Et alors, quand tu arrives chez Epsor, on est quand déjà à peu près?
Alors, on est fin 2018, donc ça fait 1 an que les fondateurs bossent sur le produit et on est en train de lancer le produit. Donc, il y a les fondateurs, quelques stagiaires, on est moins de 10 et moi, je fais partie des 2-3 premiers CDI à arriver à ce moment-là, au moment vraiment de la première levée de fonds, donc de la seed, où on a levé 1 million d'euros. Donc, c'est vraiment, j'arrive la semaine de la première levée.
Ok, donc tu fais vraiment le lancement du produit commercialement notamment.
Exactement.
C'est quoi ton job quand tu arrives alors?
Alors là, c'est un sujet passionnant et dont j'avais vraiment envie de parler. Donc, je te remercie de me donner cette opportunité et cette tribune, puisque en fait, moi, je suis arrivée. Donc, j'ai rencontré Julien et Benjamin qui m'ont proposé de les rejoindre en tant que head of sales. Donc, bon, probablement d'ailleurs que s'ils m'avaient pas proposé ce poste, je l'aurais pas accepté. Enfin, s'ils m'avaient proposé un autre titre. Et donc, j'arrive head of sales pour vraiment lancer toute l'activité commerciale. J'arrive, évidemment, je suis head of person, hein, puisqu'il n'y a pas d'équipe sales. Enfin, il y avait deux stagiaires. Donc, j'arrive, je prends mon poste, je commence à recruter, ça se passe bien. Mais je suis quand même assez junior. C'est pas évident. J'ai 2 ans d'expérience. J'ai jamais vraiment fait ça. Et puis, je me rends bien compte rapidement que, voilà, je peux être head of sales de 2 sales, que j'y arrive, ça se passe bien. Mais on a des ambitions énormes, rendre vite, que potentiellement, je me rends compte que ma courbe d'apprentissage, ben, elle va peut-être être moins rapide, on va dire, que la courbe, la croissance de la boîte, et que très vite, on va être 10 dans mon équipe, qu'on va avoir des problématiques commerciales hyper complexes, et que j'ai pas forcément les compétences, la maturité pour gérer ça, et que ça va poser un problème. Je me rends compte de ça. Julien et Benjamin, les deux fondateurs, s'en rendent compte aussi. Donc, ils viennent me voir au bout de quelques mois, j'étais encore en période d'essai. Et donc, on a une super conversation à ce moment-là, une conversation pas évidente. Sur mes compétences, mon périmètre. Je pense que, enfin, c'était pas une conversation évidente, même pour moi. J'ai dû mettre un petit peu mon ego de côté, etc. On discute de comment on voit l'équipe dans 1 an, dans 3 ans, comment moi je peux me placer dans cette équipe, et surtout on discute du fait que on aura sûrement besoin à un moment de recruter quelqu'un de plus expérimenté. Et donc voilà, j'ai en fait pas forcément, alors j'aime pas dire ça, mais les épaules pour ce poste de head of sales. Et donc, on a fait un avenant à mon contrat de travail. Très concrètement, comment ça s'est passé. Mon contrat, c'était directrice commerciale, de directrice commerciale à responsable commerciale. Donc, ça permettait en fait que je puisse continuer évidemment à gérer l'équipe, mais que si un jour on avait besoin de recruter quelqu'un à côté de moi ou au-dessus de moi, bah, ça poserait pas forcément de problème à ce moment-là. Ça ne s'est pas produit tout de suite. C'est seulement 2 ans plus tard qu'avec Julien, on s'est dit, bon, bah, ça y est, là, on a besoin d'aller recruter quelqu'un avec plus d'expérience. Et moi-même, d'ailleurs, je ressentais aussi ce besoin. J'étais très, très demandeuse d'aller recruter mon propre boss et d'aller chercher de l'expérience. Et donc, voilà, il y a 1 an, donc 2 ans plus tard, on a commencé à chercher un head of sales. Mais le fait de l'avoir anticipé, ben, ça a vraiment facilité les choses à ce moment-là. Alors, on n'a toujours pas trouvé. Donc, avis aux amateurs, j'imagine qu'ils sont nombreux parmi tes auditeurs. Mais en tout cas, aujourd'hui, en fait, l'équipe commerciale telle qu'elle est chez Epsor, c'est marrant, c'est vraiment l'équipe telle qu'on l'avait dessinée au moment où on a eu cette conversation un soir dans nos petits bureaux à l'époque. Et moi, j'ai vraiment la place qu'on avait envisagée aussi à ce moment-là. Donc, en gros, concrètement, aujourd'hui, moi, je gère toute l'équipe mid-market, qui est quand même la plus grosse partie de l'équipe commerciale. En parallèle, on a des commerciaux grands comptes que moi, je gère pas directement. Tout qui est chapeauté par un head of sales, qui est aujourd'hui, du coup, encore Julien, qui est un des fondateurs, avec moi en appui, avec un rôle quand même un peu transverse. Donc, je pense qu'on joue un peu ce rôle de head of sales tous les deux, qu'on se partage. Moi, j'ai pas envie de prétendre à ce poste, en tout cas aujourd'hui. Peut-être que si dans un an, on a trouvé personne, je pourrais y prétendre. Aujourd'hui, j'ai pas envie et je suis vraiment hyper contente, épanouie sur mon périmètre. Mais c'était pas facile à gérer, c'était pas facile à digérer, c'était pas facile à communiquer chez Epsor. C'est des sujets d'organigramme sur lesquels il y a toujours des gros tabous et la communication, notamment en interne, n'est vraiment pas évidente sur ces sujets. Qu'il y a eu pendant un moment un peu un flou artistique dans la boîte autour de mon poste, c'était pas un moment très agréable. Mais je pense qu'on l'a quand même vachement bien géré tous ensemble. Et je suis sûre que mon histoire, voilà, elle résonne chez plein de gens en start-up. Et franchement, quand tu regardes les profils LinkedIn des salariés de start-up, ils sont tous VP, head of, etc. C'est une armée de colonels mexicains. Et je sais que derrière chaque titre, il y a une histoire comme ça. Et donc, voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je pense que c'est hyper tabou, alors que c'est vraiment la même histoire partout. Nous, on a eu aussi notre CTO qui est parti un peu pour ces raisons aussi. En fait, on avait un CTO au début qui était hyper junior, sorti d'école. Enfin, c'était vraiment la bonne personne pour développer le MVP, monter la première équipe, etc. Mais 2 ans plus tard, c'était plus la personne qu'il nous fallait pour, comme CTO, gérer une équipe tech de 20 personnes. Et donc, du coup, il est parti à ce moment-là. Et c'est vrai que quand tu te retrouves dans cette situation qui est ultra classique et à laquelle la majorité des managers en start-up sont confrontés un jour, t'as 2 options, quoi. C'est soit t'acceptes qu'on te mette une tête au-dessus de toi, soit tu t'en vas. Moi, j'ai choisi du coup la 3e option qui était un peu d'anticiper cette situation et pour pouvoir l'éviter. Enfin, même on l'a anticipé avec Julien et Benjamin. Mais je pense qu'il faut accepter que c'est hyper normal comme situation, c'est banal, que forcément, à un moment, chaque boîte a envie de recruter quelqu'un qui a déjà fait ce qu'on va lui demander de faire et que toi, forcément, à un moment, bah, tu te retrouves à un niveau où on te demande de faire quelque chose que t'as jamais fait. Donc, il faut vraiment dédramatiser tout ça. Il y a une grosse responsabilité des fondateurs là-dessus. C'est vraiment à eux de bien communiquer, de recruter les bons titres avec les bons niveaux de seniorité. C'est à eux de partager leur organigramme actuel, leur vision cible de leur organigramme, d'expliquer qu'on est dans un environnement mouvant, c'est le propre de la start-up, que justement si ça marche bien et que si ça marche bien très vite, bah forcément ça va aussi évoluer très vite et peut-être un peu plus vite que toi. Et donc voilà, après c'est aussi aux salariés de faire preuve d'humilité, de maturité là-dessus, et de comprendre que si un jour on recrute quelqu'un au-dessus de toi, c'est pas un échec, mais c'est aussi un moyen de développer et une opportunité de développement.
Ok, merci beaucoup pour tout ça, Maud. C'est hyper dense ce qu'on vient de se dire là, et c'est aussi pour ça que je t'ai invité, moi, hein. C'est pour traiter ce sujet, parce que je savais déjà, on avait déjà parlé avant quand tu étais arrivé à cette étape de ton parcours. Est-ce qu'on peut revenir sur un peu le séquençage de comment ça s'est passé? Donc toi, tu arrives, comme tu disais, tu étais head of person, head of de stagiaire. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es tout de suite avec un objectif de recrutement ou est-ce que tu commences à vendre d'abord pour sentir le marché et le produit?
Ben, les deux, mon capitaine, hein. Forcément, de toute façon, quand tu arrives au début, on te demande de tout faire et c'est hyper dur justement de gérer à la fois l'opérationnel et le fait de aussi prendre du recul, je dirais. Donc mes 2 premières missions c'était le recrutement et d'aller commencer à vendre. C'est ce que j'ai fait. Mais je pense que ce qui est hyper important aussi, et que j'ai probablement pas assez fait à ce moment-là, c'est de prendre du recul. Et peut-être que j'aurais dû demander voilà, un mois pour construire ma roadmap, mettre en place ma stratégie, mes outils, le CRM, etc. C'est des choses que j'ai fait en parallèle, mais c'est pas évident de paralléliser aussi tout ça. Et c'est sûr que le recrutement aussi, au début, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est ce sur quoi on t'attend.
Donc sur tes trois premiers mois, tu recrutes combien de sales ?
Trois.
Ok.
Trois sales, je pense.
Donc il faut les trouver, il faut les onboarder, il faut faire en parallèle tout le pitch, le process, continuer à vendre. Comment ça s'est passé ces trois premiers mois là-dessus ?
Bon, ça s'est bien passé, hein. C'est une phase hyper excitante, hein. De toute façon, tous ces quelques mois, parce que c'est allé quand même assez vite, mais entre la seed et la série A, c'est une période tellement dense, t'es très peu, il faut tout construire, forcément tu vas pivoter, etc. Ça me fait aussi beaucoup plaisir de revenir sur cette période avec toi, parce que j'en garde vraiment des très bons souvenirs. Et du coup, pour moi, j'étais vraiment first timer. Je pense que c'est pas aussi la même chose quand t'es first timer ou quand t'arrives et que tu vas juste reproduire ce que t'as déjà observé ou mis en place avant. Moi, j'étais nouvelle dans l'écosystème startup, j'étais nouvelle dans le métier de l'épargne salariale, donc ça demande encore plus d'efforts, je pense.
Et dans le management aussi.
Et dans le management, vraiment, j'ai tout découvert. Donc, ce que j'ai fait, c'est parler avec beaucoup de gens pour m'inspirer et demander des conseils. Beaucoup de personnes de l'écosystème startup. Fallait que je mette en place un CRM, on avait HubSpot, je vais voir une copine qui travaille chez Payfit, ils étaient sur HubSpot à l'époque, je lui dis est-ce que je peux me poser à côté de toi, et je regarde tous leurs HubSpot et je copie tout, quoi. Voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens, je pense que j'aurais dû plus aller à la rencontre de personnes du métier de l'épargne salariale, prospects pour vraiment, et futurs clients pour leur demander comment ils décident sur ce genre de projet, etc. Mais en tout cas, le fait de pouvoir m'inspirer et demander des conseils, ça m'a beaucoup aidé pour ces fameux trois premiers mois. Et du coup, j'avais des missions hyper nombreuses, recruter, vendre et mettre en place les outils, les decks commerciaux, tout le discours. C'était vraiment très dense.
Alors, tu disais qu'aujourd'hui, le rôle de directeur commercial, il était encore assumé par Julien, qu'on salue au passage, qui est un de tes cofondateurs. À ce moment-là, c'est quoi son rôle dans l'accompagnement de Maud en tant que nouvelle directrice commerciale ?
Son rôle, c'est vraiment de m'épauler, de me coacher. Et en même temps, lui, il est aussi first-timer. Je pense que ça change aussi beaucoup quand t'as un fondateur qui a déjà monté une boîte, etc. Lui, il avait bossé 10 ans chez Société Générale avant, donc il découvrait aussi beaucoup de choses. Alors, il avait plein d'expériences, plein de choses à m'apprendre de son expérience chez Société Générale. Il avait, notamment sur la partie recrutement, par exemple, il m'a beaucoup aidé là-dessus. Mais sinon, on a beaucoup appris tous les deux et dû improviser, imaginer tous les deux. Donc, en fait, son rôle, c'était plutôt d'être un coach, mais il était très présent, hein. Avec moi au quotidien, avec l'équipe, etc. De toute façon, on était 20, donc forcément, les fondateurs, ils sont ultra présents au début.
Et alors, au début, donc on a cette période de 3-6 mois où tu es un peu sur tous les fronts, mais tu arrives quand même à déployer ton CRM, à déployer ton process de vente, à recruter tes premiers commerciaux, à closer tes premiers deals. Tu as l'air d'avoir fait des débuts plutôt excellent dans ton job, finalement, malgré ton manque d'expérience, etc.
Merci.
Alors, qu'est-ce
ça
qui
fait du bien de l'entendre.
Et qu'est-ce qui fait, au final, que vous avez cette discussion dont tu parlais au début ? Donc, à la fin de ta période d'essai, on doit être à quoi ? 5 mois, 6 mois de présence chez Epsor. Comment est-ce que la conclusion d'une période où tu délivres de très bons résultats débouche sur ce constat-là ?
Je pense que c'est vraiment justement, tu me posais la question de la présence et du rôle de Julien à ce moment-là dans l'équipe. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il était peut-être trop présent et que lui, vu tous les sujets, les projets qui nous attendaient, il avait besoin de pouvoir se reposer sur quelqu'un qui allait être entièrement autonome. Et donc c'est peut-être un peu le fait qu'il était trop présent avec moi qu'il a amené à se dire un jour il faudra que je puisse me détacher entièrement de l'équipe. Et aujourd'hui c'est pas le cas avec Maud. Peut-être quelque chose de... Je suis en train de me livrer complètement. C'est peut-être très féminin aussi. C'est un sujet dont on parle souvent, hein, que les femmes, elles ont tendance à se sous-estimer.
Le syndrome de l'imposteur.
Voilà, exactement. Donc, c'était peut-être un peu ça. Et que moi, j'avais aussi du mal à prendre ma place dans l'équipe avec un Julien au-dessus de moi. Enfin bref, je ne veux pas tourner la conversation en session de psy, mais c'est peut-être très féminin. Donc, peut-être en réponse à cette question de une réponse pour les filles qu'il ne faut pas se sentir syndrome de l'imposteur.
Et c'est aussi pour ça que j'insiste un peu sur le fait que de ce que j'entends, moi, tes débuts avaient l'air excellents pour le coup. Alors, bon, vous avez cette discussion-là, ça n'empêche pas que vous êtes très content de bosser ensemble et que les résultats sont là et que tu délivres. Donc, une fois que vous vous êtes dit ça, qu'est-ce qui se passe après? Tu continues à recruter malgré tout, à faire grandir ton équipe? Ça se passe comment sur les, on va dire, de passer ce cap des 6 premiers mois jusqu'à un an et demi? Qu'est-ce qui se passe?
Alors ouais, je continue à recruter, on fait la série A, j'onboard 5 sales, dont une qui du coup était grand compte et pas directement rattachée à moi, et c'est là qu'on a eu un petit moment de un peu flou sur mais qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'elle reporte à Maude ou pas. En tout cas, moi je continue à, tu vois, faire grossir l'équipe, signer de plus en plus de gros clients, mettre en place de plus en plus d'outils, etc. Je vois aussi que à ce moment-là, au bout de ces 6 mois, 1 an, mon périmètre, il évolue aussi beaucoup. Il faut apprendre à déléguer. Pareil, c'était des choses que j'avais jamais fait. Donc, c'est pas complètement instinctif d'apprendre à déléguer. Au début, quand tu arrives très tôt, tu dois accepter de faire beaucoup de dirty jobs. Enfin, on disait de l'opérationnel tout à l'heure, mais c'est même encore pire que de l'opérationnel. C'est vraiment, je faisais à l'époque toute la partie administrative des contrats, qui est assez un process assez lourd chez nous et pas très intéressant, que aujourd'hui les sales font plus du tout. Mais moi, je l'ai fait pendant assez longtemps. C'est important, hein, voilà, pendant les 6 premiers mois. De faire ça, d'être prêt à le faire, c'est ça qui m'a permis aussi, je pense, tout ce que j'ai fait pendant ces débuts chez Upsor, que ça m'a permis vraiment de gagner en légitimité, parce que en fait, de l'avoir fait aujourd'hui, même pour les personnes qu'on onboard, ça me permet de connaître vraiment tout le métier, tous les process Upsor sur le bout des doigts, de pouvoir répondre à chaque question de chaque salarié aujourd'hui dans l'équipe. Mais d'ailleurs, c'est important de recruter au début des gens qui vont être prêts aussi à faire ce dirty job. J'avais recruté un commercial qui venait d'un grand groupe concurrent, dans lequel il y avait tu vois, des équipes admin, support énormes, et en fait qui n'étaient pas du tout prêts à faire ça, et finalement du coup ça n'a pas matché à cause de ça. Donc c'est important aussi, quand on recrute les premiers employés, d'avoir en tête de recruter des gens qui vont être capables de mettre quand même les mains dans le cambouis sans rechigner. Et voilà, et après, au bout de 6 mois, 1 an, bah forcément, tu fais plus tout ce dirty job, ton équipe se construit, ton équipe grandit, la boîte grandit aussi, t'es plus 15 dans l'open space. Faut aussi, je pense, quand t'es aussi peu nombreux au début, tu travailles plus facilement avec les autres équipes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti au bout d'un an. On a eu un peu, tu vois, on travaillait beaucoup avec l'équipe marketing, et au fur et à mesure que les deux équipes se sont renforcées, on s'est un peu éloigné, je crois. On s'est rendu compte à un moment qu'il fallait qu'on recrée un pont entre l'équipe sales et marketing, parce que voilà, on était chacun focus sur le fait de faire grandir notre équipe, sur nos objectifs. Et donc, on n'avait plus tellement de meetings en commun, on n'était plus sur le même channel Slack, etc. Et donc, après, on s'est dit, mince, il faut qu'on réapprenne à bien communiquer. On a mis typiquement, tu vois, des référents marketing pour chaque équipe sales, donc un référent sur la partie grand compte, un référent sur la partie mid-market. Mais quand tu grandis aussi beaucoup comme ça, il faut apprendre à gérer la communication. Ouais, entre
garder les liens, ouais, et pas tomber dans le piège des équipes en silo qui se parlent plus. Tu parlais tout à l'heure de savoir déléguer. Moi, quand j'entends une responsable commerciale qui dit qu'elle délègue, j'imagine forcément du middle management. Est-ce que ça veut dire que c'est un moment où tu as commencé à structurer ton équipe comme ça, ou pas encore?
Pas encore. C'est même pas encore le cas.
Alors, du coup, vu que tu n'as pas mis de strat de middle management, de quoi on parle quand on parle de sujets à déléguer? Qu'est-ce que tu délègues finalement? C'est des sujets plus opérationnels?
Déléguer, même pas forcément au sein de ton équipe. Des choses, tu vois, moi j'étais en charge au début de toute la partie, je faisais beaucoup la partie lead gen, surtout l'outbound, c'est reparti plutôt au marketing. Enfin, forcément, ton périmètre, tu vas te spécialiser et il se réduit. Pareil, on a pas mal de choses qui étaient, je te parle de la partie contrat tout à l'heure, on l'a basculé côté CSM, parce qu'on apportait assez peu de valeur finalement, nous, en tant que commerciaux, sur cette partie-là. Donc c'est déjà apprendre à réduire ton périmètre pour être plus efficace sur ton périmètre. Donc c'est déléguer sur le périmètre du commercial, et puis déléguer aussi effectivement des petites tâches. Enfin, en fait, il faut toujours se demander ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est vraiment optimal que ce soit moi qui le fasse ou est-ce qu'il faut que quelqu'un d'autre le fasse à ma place? Et donc, c'est pas du middle management, mais tu vois, pas mal de stagiaires aussi dans l'équipe. Alors, je te dis ça, on est très mauvais élèves là-dessus parce qu'on n'a toujours pas de sales ops alors qu'on est une équipe de 10 sales. Mais il nous faudrait vraiment un sales ops pour que je puisse déléguer toute la partie vraiment ops, quoi. Donc, c'est aussi aller faire appel, déléguer à des experts qui vont être finalement presque meilleurs que toi sur certains okay. besoins.
En tout cas, j'aime beaucoup ces réflexions très pragmatiques de gens qui, quand ils atteignent un certain plafond de, pas de compétences, mais de capacité dans le temps à effectuer toutes les tâches de leur périmètre, qui ont une réflexion de déléguer à d'autres équipes plutôt que de forcément gonfler son équipe. Il y a toujours ce truc de, à un moment donné, je réfléchis à ma carrière et donc je veux devenir directeur d'une équipe de 15 personnes, 20 personnes, 25 personnes, je veux créer des postes, je veux créer des managers. Et t'es pas du tout dans cette démarche-là. Et ça s'entend depuis le début de ton parcours chez Epsor finalement. Et...
Ça veut pas dire que je manque d'ambition, hein.
Non, clairement pas. Mais ça veut dire que tu réfléchis d'abord à
au
comment tu apportes
aussi,
de la valeur à Epsor plutôt que à comment Maud, elle gère son profil LinkedIn.
C'est ça, je pense à mes BSPCE, je t'avoue.
c'est plutôt le bon calcul, je pense. Ouais. Il y a eu plusieurs moments dont tu as parlé qui avaient l'air des moments déclencheurs de croissance et de décision dans ta boîte. Est-ce que tu saurais nous dire qu'est-ce qu'il y a eu comme grosse étape, comme gros marqueur dans la vie d'Epsor?
C'est pas une question évidente parce que les moments forts dont moi je me souviens chez Epsor, les moments les plus marquants, c'est les signatures de gros clients, les séminaires, c'est les levées de fonds, c'est des moments en fait de célébration, c'est les moments vraiment de collectif, etc. Donc c'est hyper hyper important de sacraliser ces moments-là, de vraiment les célébrer. C'est sur ça qu'on s'appuie aussi quand ça va moins bien. Et après le reste, sur vraiment des on n'a pas eu de gros pivots, etc. Le reste c'est plus, j'ai l'impression, le fruit de petites actions, d'une amélioration continue qui font que en fait un jour, quand tu revois où est-ce que t'en étais il y a 6 mois ou il y a 1 an, tu te dis waouh, tout ce qu'on a parcouru. Et en même temps, c'est plutôt parce qu'il y a plein de petites choses qui ont été faites et vraiment step by step. Donc, moi, je vois plutôt ça comme au quotidien, se dire tous les matins, qu'est-ce que je peux faire de mieux, avoir des nouvelles idées, justement, essayer de gagner du temps, toujours être obsédé par le fait de pas perdre de temps et de pouvoir, si t'es pas optimal sur une tâche, trouver quelqu'un d'autre pour la faire à ta place, etc. Je me souviens quand on a mis Notion en place, on était comme des fous et aujourd'hui on peut plus passer de Notion, donc c'est pas un événement marquant, mais en fait c'est le genre de choses qui font que la boîte avance bien, avance vite, et il faut justement mettre en place ces choses-là au bon moment, tu vois.
Au-delà de l'outil qui est assez basique, effectivement, c'est plutôt l'idée de se mettre dans l'état d'esprit, de documenter maintenant l'intégralité de ce qui se passe. Et d'avoir toujours cette bible, cette référence vers laquelle on se tourne quand on accueille des nouvelles personnes, quand on veut optimiser des process et qu'on veut se tourner vers comment ils se déroulent aujourd'hui.
Mais tu vois, entre le moment où tu ressens que tu as le besoin de bien documenter et le moment où tu vas le mettre en place, forcément, il y a un petit laps de temps. Il faut toujours faire aussi les choses au bon moment. Pareil, je sais qu'on avait un gros chantier sur faire toute une grille de salaire, réfléchir un peu à tous nos grades, etc. chez Epsor. Et ça, on a mis pas mal de temps à accoucher de cette grille parce que c'était quand même un gros sujet. Et en même temps, le jour où on l'a fait, bon bah voilà, on l'avait fait, on pouvait passer à autre chose. Donc, il y a toujours plein de dossiers sur ton bureau et il faut vraiment réussir à les aborder au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard, quoi.
C'est intéressant ce sujet de la grille salariale. Alors, bon, sans rentrer évidemment dans les salaires eux-mêmes, mais comment est-ce qu'on construit une logique comme celle-là? Ça veut dire que maintenant vous avez quelque chose de très clair et quasiment fermé de si t'as tel job, telle expérience, t'as tel salaire et basta. Comment ça marche?
Alors, bon, notre DRH t'en parlerait mieux que moi, mais déjà, comment on construit ça? Justement, je pense, en se précipitant pas, et on a mis du temps à la construire, mais quand on l'a validé, bah, c'était le fruit de notre expérience, de nos valeurs, etc. Donc aujourd'hui, nous, on pourra en rediscuter, mais on a une grille avec tous les différents postes dans les différentes équipes, des niveaux de seniorité, junior, confirmé, senior, manager, head of, etc., sur chaque poste, et des fourchettes de salaire sur dans chaque case. Mais tu vois, c'était vraiment Il fallait que ce soit une grille qui nous ressemble. On n'était pas non plus dans l'ultra-transparence de « on veut que tous les salaires soient publics », on voulait se garder une marge de manœuvre et en même temps, on voulait quand même apporter de l'équité, de la visibilité à chacun sur où est-ce qu'il se situait dans la grille, où est-ce qu'il pouvait se projeter, etc. Donc c'était vraiment... Je pense que ça a été fait avec les managers, avec la RH, avec les fondateurs, mais c'était vraiment... Enfin, c'est une grille qui nous ressemble aujourd'hui. Je pense que c'est ça le plus important. Ça, c'est un sujet qui a été traité par notre DRH, mais en fait, au début aussi, quand t'arrives, y a pas de DRH, y a pas de RH même. Et donc, les premiers employés, ils doivent... Enfin, moi, j'ai le sentiment d'avoir aussi pas mal traité des sujets RH pendant mes 6 premiers mois chez Epsor. Alors, évidemment, c'est des sujets qui sont aussi beaucoup portés par les fondateurs, mais toi, tu vas forcément participer... quand tu arrives au début, à la définition de la culture, à la définition des rituels, des traditions. Et moi, j'ai adoré faire ça. Et typiquement, alors, j'avais des collègues qui avaient bossé sur toute la définition des valeurs d'Epsor. Moi, j'avais pas trop participé à ça, mais c'est des valeurs qui ont été définies, tu vois, par les premiers salariés qui sont toujours les mêmes aujourd'hui. Moi, j'avais pas mal bossé sur tout le process d'onboarding, de formation. Tu vois, c'était pas, j'avais pas été recrutée pour faire ça, hein, mais c'était un sujet qui m'intéressait, je voyais que c'était important. Donc voilà, j'avais mis en place tout un process de formation pour les nouveaux avec plein de sessions pendant 2 semaines et puis toute une checklist de tout ce que tu dois faire ta première semaine chez Epsor quand t'arrives. Évidemment, c'est des choses qui ont évolué depuis, qui ont été retravaillées, mais c'était des premières bases que nous, on avait posées pendant ces premiers mois. Et ça, c'est des choses qui sont faites par les premiers employés qui sont hyper, hyper précieuses. Et puis... forcément, ensuite, il y a des départs parmi les first employees, mais je pense que ceux qui restent aujourd'hui dans la boîte, ils sont vraiment, enfin, t'as un rôle hyper important dans le fait que cet ADN et la culture du début, elle reste aussi la même et que tu continues à insuffler aussi cette culture du début, quoi.
Et c'est ce qui fait la richesse de cette job-là, qu'on arrive à intégrer une start-up au tout début et qu'elle cartonne et qu'on a un rôle important dans ce carton. C'est vraiment la richesse de ce job-là. Je vais poser une question qui me paraît bien pour ton léger syndrome de l'imposteur. c'est quoi ton plus grand succès chez Epsor?
Mon plus grand succès, en vrai, c'est le recrutement. C'est l'équipe commerciale aujourd'hui. L'ambiance qui règne, l'engagement des équipes. Et ça, je pense que c'est parce que moi, je suis tellement engagé, puis je suis d'un naturel très très enthousiaste. Tout le monde comprend pas comment je peux arriver tous les matins avec un tel sourire, mais c'est ça qui fait que je pense les équipes sont vraiment hyper motivées et même si on a eu plein de moments hyper durs dans l'équipe commerciale et des réorganisations et tout ce que tu veux, finalement on a une équipe qui est en place depuis un moment, qui est à fond et c'est ça mon plus grand succès et ouais, notamment la promo qui est arrivé juste après la série A. Tout à l'heure, je te disais, ces cinq sales qui sont arrivés. Il y a eu ces recrutements, ils étaient super et ils sont arrivés tous ensemble dans une ambiance de dingue. En plus, on a fait un salon quelques 2-3 semaines juste après leur arrivée, donc 2-3 jours sur un salon, ça nous a vachement vachement soudés et même le fait qu'ils arrivent aussi tous ensemble.
Ça fait un effet de promo.
Ouais,
qui
c'est hyper important.
Pour leur intégration est hyper bien, j'imagine.
Ouais. Déjà, ça facilite l'onboarding, de faire arriver tout le monde en promo. Et puis même, ça crée une émulation dans l'équipe. Donc voilà, je pense que mon plus grand succès, c'est la constitution de cette équipe aujourd'hui.
Et en même temps, le recrutement, c'est d'autant plus difficile que toi, quand tu arrives chez Epsor, tu as une expérience du recrutement qui est quasi nulle, j'imagine. Enfin, tu as 2 ans d'expérience. Tu arrives, tu as 26 ans, tu as vendu avant, mais tu n'as pas forcément recruté. Du coup, comment tu as appris, toi, à recruter?
Comme tout le monde, hein, j'ai appris sur le tard. non, j'ai beaucoup, effectivement, j'avais jamais fait ça avant. J'ai beaucoup appris, justement, avec Julien, qui, lui, avait pas mal d'expérience chez Société Générale. J'ai déjà compris que c'était hyper important de bien recruter et compris que ça demandait du temps. Et... je vois beaucoup de managers qui consacrent pas assez de temps au recrutement, surtout au début quand justement t'as pas de RH et que c'est toi qui dois aller recruter ta propre équipe. Faut vraiment dégager du temps pour ça, même si on est justement débordé par le fait qu'à côté il faut aller vendre et faire 150 000 autres choses. Donc voilà, je me souviens dans le métro tous les matins, j'avais une demi-heure de métro et donc j'envoyais chaque matin, je pense, dans le métro, 20 messages LinkedIn et je chassais comme ça des commerciaux. Donc, j'ai passé pas mal de temps à recruter. Et comment
tes recrutements, ils viennent de ces messages LinkedIn-là, envoyés à 8h30 dans le métro?
Il y en a pas mal aussi à qui j'avais écrit à ce moment-là, qui m'avaient dit « bah non, ça m'intéresse pas » et qui m'ont recontacté ensuite 6 mois, 1 an plus tard. Donc c'est pas aussi du temps perdu parce que tu capitalises un peu, tu sèmes des petites graines. J'ai même des candidats avec qui je suis encore en contact et je désespère pas qu'un jour ils vont nous rejoindre. Donc passer beaucoup de temps à chasser, à faire des entretiens et comprendre que ouais, il faut y consacrer du temps, passer un peu de temps aussi à rédiger un process de recrutement parce que pour le coup, moi j'avais jamais recruté. Julien, même s'il savait recruter, je sais pas, il avait pas le temps, je pense, de penser au process. Donc bon, on recevait des candidats pendant une heure, puis à la fin, s'ils étaient bien, on disait go, s'ils étaient pas bien, on disait no go. Mais il y avait pas particulièrement de process. Donc je me suis posé à un moment, et je pense qu'il faut le faire le plus tôt possible pour rédiger mon process de recrutement. Donc voilà, c'est quoi les étapes, c'est quoi le profil que je recherche, les compétences, une petite scorecard, un cas pratique, en l'occurrence un petit jeu de rôle avec une simulation de vente, et puis les questions que tu vas poser, quelles questions pour évaluer quelles compétences, et ainsi de suite. Et puis en fait, tu perds pas de temps quand tu fais ça, parce que ça va te servir après pour la suite. Et moi, mon process aujourd'hui, c'est le même que celui que j'avais fait il y a 3 ans presque, on l'a un peu revu avec la RH, mais en tout cas...
Tu parles de scorecard, tu peux nous donner 2-3 clés là-dessus, de quelques compétences qui y figurent et de comment tu les évalues ?
Ouais, alors on a effectivement les compétences qui sont importantes pour nous justement chez Ipsor pour un commercial. Alors en dehors des compétences que tu peux attendre d'un commercial, nous par exemple, on va vraiment évaluer la ténacité parce qu'on a des cycles de vente qui sont hyper longs. Donc voilà, il nous faut des commerciaux qui vont être endurants, tenaces. On n'a pas de SDR, donc il nous faut des commerciaux avec un profil très chasseur. Voilà, c'est des choses qu'on va évaluer et c'est toujours aussi important, enfin, et très utile de pouvoir se raccrocher à cette scorecard, à cette liste de compétences et de mettre des étoiles sur 5 étoiles pour ensuite alimenter un peu ta réflexion quand t'as vu un candidat et tous se mettre d'accord et que ça serve aussi de base pour la discussion. Et puis ensuite, à côté de chaque compétence, savoir quelles questions tu vas poser pour aller évaluer quelles compétences. Alors moi, j'ai quelques questions que je pose tout le temps. D'ailleurs, c'est hyper important de poser toujours les mêmes questions aux candidats pour pouvoir bien les évaluer et les comparer. Moi, franchement, mes entretiens, c'est toujours exactement la même structure, les mêmes questions, etc. Je vais, par exemple, demander, poser une question très ouverte, volontairement très large, qui est « qu'est-ce que tu as compris d'Ipsor ?» Ça me permet d'évaluer à la fois la capacité du candidat à bien s'exprimer, restituer un sujet complexe, analyse, synthèse, etc., sa motivation, à quel point il s'est renseigné sur Ipsor. Tu vois, avec une question comme ça, très simple, finalement, tu vois tout de suite les candidats qui s'en sortent bien ou pas.
Et alors, tu parlais de ténacité. Comment on fait ça pour rêver? Parce que c'est une qualité qui est hyper recherchée en vente, hein, dans tous les métiers de la vente. La ténacité, ça fait partie des clés du métier. Comment on se rapproche peut-être un peu plus de la soft skill, c'est peut-être plus difficile à évaluer. Comment tu fais, toi?
Je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est, je te disais tout à l'heure, un cas pratique, donc exercice de vente, hein, mise en situation. Donc nous, c'est une petite simulation, un jeu de rôle où, alors on avait pas mal réfléchi à ça, et puis de savoir si on mettait le candidat dans le rôle d'un sales chez Ipsor. En fait, on a un produit qui est quand même hyper complexe et surtout pas mal d'inégalités entre les candidats, entre ceux qui ont déjà eu de l'épargne salariale et ceux qui n'en ont jamais eu. Et on se rendait compte que c'était beaucoup plus facile de comprendre le produit et de se mettre à la place d'un commercial chez Ipsor quand tu avais déjà eu l'épargne salariale que quand tu savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Donc du coup, on a fait le choix de faire un exercice de vente sur un sujet complètement différent et pas du tout dans une mise en situation Ipsor. Donc aujourd'hui, les candidats, ils font un petit jeu de rôle où ils sont commerciaux dans une entreprise qui vend du mobilier de bureau. Donc ça n'a vraiment rien à voir, mais au moins ça permet que c'est un peu plus facile à appréhender comme sujet, comme produit que l'épargne salariale. Et donc voilà, c'est un exercice de 15 minutes, simulation de vente sur ce matériel de bureau avec, et c'est là justement que je vais être volontairement très challengeante dans l'exercice et dire non au rendez-vous que le commercial est censé, le candidat est censé décrocher pour voir à quel point il va insister. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième que j'aime bien faire aussi quand j'ai un doute sur la ténacité du candidat, c'est lui dire que je doute d'un point, que je vois qu'il a un défaut et de voir comment justement il va se défendre là-dessus. J'aime bien faire des feedbacks en direct pendant les entretiens. Ouais.
Alors, on va y revenir parce que je trouve ça intéressant, mais je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure de faire des business cases qui sont complètement décontextualisés de ce que tu vends aujourd'hui. Effectivement, ça permet d'enlever le biais pour les candidats de ceux qui maîtrisent plus ou moins un sujet. Et je pense qu'on peut faire un parallèle avec la formation où je trouve que c'est hyper intéressant quand on forme ses sales de temps en temps de faire des exercices de vente qui ne sont pas sur notre produit aujourd'hui, mais qui sont sur la pure technique de vente. Et donc de se mettre dans la peau d'une autre startup qu'on maîtrise peut-être beaucoup moins, ou d'une autre entreprise de la vraie vie, hors écosystème, et de vendre quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de vendre pour vraiment aller travailler sur les techniques de vente et pas uniquement sur la technique de vendre Epson.
Ouais, et nous, là-dessus, on s'est fait former l'année dernière. On a fait une formation, on s'est fait accompagner par un des potentiels concurrents d'ailleurs.
Tu peux le dire, vas-y.
Qui s'appelle Questio, c'était pas mal, sur une formation de vente assez généraliste. Et justement, où en fait, t'avais une intervenante qui venait, une formatrice qui connaît rien à notre métier, à notre produit. Donc forcément, sur des sujets assez... ça faisait effectivement du bien de sortir de ça. Et là, on refait une formation aussi sur... la vente plus complexe début d'année prochaine. Et c'est sûr que c'est... Enfin, on fait beaucoup de formations continues en interne, mais de se faire former par quelqu'un de d'extérieur, c'est aussi très, très précieux. Donc voilà, j'espère qu'on fera appel bientôt à Visio pour ça.
Avec plaisir, tu sais où me trouver. Et donc, je reprends le dernier point que j'ai discuté sur le recrutement, qui était le feedback à chaud. Alors, il y a deux choses sur le feedback à chaud. La première, c'est quand tu veux continuer à tester quelque chose. Et la deuxième, c'est quand tu fais un feedback de fin d'entretien. Toi, tu parlais vraiment d'aller creuser un sujet comme la ténacité. Est-ce que tu as vraiment des candidats qui arrivent à te faire changer d'avis et à te donner plus que ce que tu avais vu jusque-là sur la question? Ou est-ce que vraiment, en fait, il y a un biais qu'ils n'arrivent pas à casser?
Non, j'en ai déjà vu qui m'ont fait changer d'avis. Et j'espère que Jérém... dans mon équipe, écouter ce podcast, j'en doute pas, et petite dédicace pour lui, où effectivement on lui avait dit qu'on le trouvait un peu nonchalant pendant l'entretien, et il nous a vraiment fait changer d'avis.
Et vous a retourné comme des crêpes.
Exactement. Et il est toujours là après 3 ans. Et après, sur le feedback à chaud à la fin de l'entretien, ça c'est quelque chose que je pratique aussi un peu. C'est Julien qui m'a appris ça, qui est un peu déstabilisant parfois pour les candidats, mais franchement, ça fait gagner pas mal de temps. Et finalement, si c'est bien fait, c'est même assez apprécié par le candidat. Quand tu sais en fait que ça va pas le faire au bout de 20 minutes, 30 minutes d'entretien, même avant d'ailleurs, n'a pas hésité à dire au candidat, voilà, je pense que ça va pas le faire, je préfère utiliser les 10 minutes qui nous restent pour te faire un retour, répondre à tes questions. Si c'est bien fait, c'est apprécié. En plus, tu t'économises un peu le temps de devoir ensuite, une semaine après, rappeler le candidat pour lui dire finalement, on n'ira pas plus loin. Ça fonctionne bien.
Ouais, je suis assez d'accord. C'est quelque chose que j'ai pas mal pratiqué moi-même aussi. Je l'ai peut-être pas fait tout le temps. Je pense qu'il y a aussi une notion un peu d'affect qui se crée avec des candidats dont tu sais que ça va pas le faire, mais que t'as quand même vraiment envie de les aider parce que tu rencontres des très chouettes personnes et que ce petit coup de main, ces petits conseils, ça va peut-être les aider pour leur prochain entretien. Et effectivement, je suis d'accord sur le fait que c'est probablement du temps mieux engagé que de poursuivre un entretien qui a vocation à ne pas déboucher sur quelque chose juste parce que t'as encore 3-4 questions à poser dans ta structure d'entretien structuré, quoi. Ok, top. Revenons un peu à toi, à titre perso. Bon. Entre la mode qui est arrivée chez Epson il y a 3 ans et la mode d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Sur quoi est-ce que tu as le plus progressé?
Je pense en réalité sur le management, parce que c'était ce qu'il y avait de plus nouveau pour moi. Commercialement, je me suis évidemment beaucoup renforcée, mais c'était quelque chose que je connaissais déjà. Donc vraiment, depuis que je suis arrivée chez Epson, c'est... sur le management que j'ai vraiment progressé et appris en observant beaucoup Julien et les autres managers aussi. Hein. C'est important de s'inspirer des autres, en tant que manager, des autres managers de ta boîte, de créer une communauté aussi de managers. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait plus récemment, mais vraiment, voilà, on a un groupe avec tous les managers où on va vraiment partager nos besoins, nos problèmes. Et on gagne beaucoup de temps comme ça, parce que se donner des conseils, s'il y en a un qui met en place, je sais pas, un template pour ses one-to-one dans son équipe, ben en fait, ça vaut le coup de le partager aux autres. On a fait une formation, j'ai fait former aussi sur le management, parce que je pense, pareil, dans beaucoup de néo-managers dans les startups, on a un peu tendance à penser que c'est inné, et en fait, ça s'apprend aussi beaucoup. Donc, on a fait une formation pour tous les managers avec l'ancienne DRH d'Algolia. C'est hyper, hyper intéressant. Je fais encore de la pub à tes concurrents. Mais voilà, j'ai appris beaucoup. C'était hyper, hyper précieux comme formation. Appris à faire justement des one-to-one plus efficaces. Appris à mieux solliciter mon équipe. Voilà, j'ai beaucoup appris sur le management. Et puis, c'est aussi quelque chose dans lequel je prends beaucoup de plaisir. Je pense que pas tellement en lien avec ta question, mais du coup ça me fait penser à ça, qu'on a aussi un peu la vision que le management c'est la prochaine étape, c'est ultra valorisé, etc. Mais c'est il y a peut-être aussi des gens qui ont pas envie de manager, ça les intéresse pas, ils sont pas bons là-dessus, ils vont prendre plutôt un track expert, et c'est très très bien, très très bien aussi.
D'ailleurs, souvent les gens qui sont pas bons en management, c'est les gens que ça n'intéresse pas souvent. C'est pas une question de défaut de qualité humaine. Alors peut-être une question de défaut de méthode, évidemment, mais aussi un défaut d'intérêt pour la question et d'avoir envie d'être plus dans une posture de contributeur individuel, quoi.
Mais bon, c'est tellement vu aujourd'hui comme un aboutissement, le management, que parfois tu vas propulser aussi des gens à ces fonctions-là qui n'ont pas du tout envie d'y être, mais qui pensent qu'ils ont envie d'y être parce qu'ils ne voient pas forcément aussi d'autres voies possibles.
On a beaucoup parlé de Julien et de ce rôle un peu de mentor qu'il a eu depuis qu'il t'a embauché chez Epsor. S'il y avait un apprentissage en particulier qui t'a apporté et que tu pourrais nous partager, ça serait quoi ?
Un apprentissage comme ça, c'est pas évident. Après, ces derniers jours, il m'a engueulé parce que je venais pas assez préparée à nos réunions, parce que j'avais pas le temps, etc. Donc en fait, ça sert à rien de venir à un meeting quand t'es pas préparé, et de partir d'une feuille blanche, ça me fait perdre mon temps, ça lui fait perdre son temps, on a tous les deux pas beaucoup de temps à perdre. Donc du coup, peut-être c'est pas forcément le plus grand apprentissage, mais en tout cas, c'est quelque chose ces derniers jours bien préparé. Ouais, exactement. Tu vois, du coup, j'ai super bien préparé ce podcast.
Maud, merci beaucoup pour cet épisode et pour tout ce que tu nous as raconté sur ton passage chez Epsor.
Qui est pas terminé. Hein.
évidemment, et dans lequel il va encore se passer beaucoup de choses. J'aime bien conclure avec les trois questions suivantes que je vais te poser. La première, c'est que tu pourrais nous partager une ressource business qui t'a marqué.
Alors, une ressource business qui m'a marqué, moi je suis assez mauvaise élève sur l'écoute de podcasts, la lecture d'articles, de livres, etc. Je sais qu'il faut que je libère plus de temps pour faire ça, mais j'y arrive pas forcément. Mais du coup, j'ai une super application qui s'appelle Pocket. Je sais pas si tu connais.
Je connais Pocket.
Voilà. Donc, dans laquelle j'enregistre toutes les ressources, tous les articles, les podcasts qu'il faut que j'écoute, que je lise, etc. Donc du coup, c'est plutôt d'abord télécharger Pocket, y mettre tout ce que tu as envie d'écouter. Et ensuite, quand j'aurai le temps, je m'attellerai à cette tâche.
Moi, je crois que j'ai arrêté d'utiliser Pocket quand je me suis rendu compte que les trois quarts, je ne les lisais pas.
Ah bah non, moi, pour le coup, dès que j'ai un peu de temps, du coup, je vais piocher dans ma liste de lecture sur Pocket.
Quand on se tient à l'usage, c'est hyper bien. Deuxième question, une ressource non business.
Alors là, je viens de lire un bouquin qui s'appelle Impact, qui est un thriller écologique. Je t'en dis pas plus, mais je te recommande fortement sa lecture. Et en fait, c'est responsable marketing qui l'a lu, qui l'a passé à toute la boîte, on l'a tous lu. Et là, on l'a offert comme cadeau de Noël à tous nos prospects clients, tellement on a été marqués par ce bouquin. Donc voilà, je te le recommande.
Un thriller écologique, ouais. Ok. Qui est-ce qui l'a écrit ?
Ah mince, un ancien policier qui est romancier, son nom m'échappe complètement.
C'est une bonne pirouette, ça nous donne un peu le thème. Et la troisième et dernière question, est-ce que tu aurais une idée d'invité que je pourrais avoir à ta place derrière le micro ?
J'ai un ami qui fait partie des premiers employés de chez Skello, une belle boîte, belle aventure, et qui aujourd'hui a monté un réseau de crèches. Et je trouve ça intéressant parce que, bon, il a connu l'aventure Skello à ses débuts, mais aujourd'hui, lui, il n'a pas monté, il n'a pas fait le choix de monter start-up à hyper croissance, mais plutôt une petite PME qui fonctionne très bien. Donc voilà, tu peux écrire à Jérémy de ma part.
Jérémy, comment ?
Cidbon.
Jérémy Cidbon, parfait. Maud, merci beaucoup pour cet épisode. J'ai appris beaucoup de choses. J'aime beaucoup le parcours et l'histoire. C'était hyper intéressant. J'espère que ça vous a plu aussi. Et à très vite.
Merci.
Vous venez d'écouter un épisode de Lieutenant. Si ça vous a plu et que vous voulez nous aider, vous pouvez le partager à 3 personnes autour de vous, inscrire vos amis de force au podcast sur leur smartphone et me laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify avec un gentil commentaire. C'est ça qui me rendra visible dans les classements. Si vous voulez être tenu au courant, vous pouvez m'écrire à younes@avisio.fr et je vous enverrai le lien de l'épisode à sa sortie. Aussi, si vous ou vos équipes voulez être accompagné par l'un des meilleurs managers de la tech pour monter en compétence sur votre métier et apprendre les techniques des meilleures boîtes de la place, Avisio Mentoring est là pour vous à la même adresse. Je suis Younes Elgarty et je vous dis à bientôt.